Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Il faut qu'on s'améliore et qu'on puisse essayer de planter le clou.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot. Vous le savez, l'after est là, espace de liberté des supporters au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler avec Daniel Riolo qui vous attend. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Stéphane Guy est là également, salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Et nous accueillons ce soir un ami de l'after qui passe nous voir régulièrement, l'agent 001. Le Sean Connery de la place, j'ai nommé Bruno Satin, bien sûr.
Bonsoir.
Salut
à
Bruno.
Tous, bonsoir.
Oh, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas passé.
Ah, mais Bruno est venu au spectacle.
On s'est vu à la Cannes.
On s'est vu à la Cannes.
Gilbert.
Ouais. Bruno est sur tous les terrains.
Sur quelques-uns, ouais.
Dernier match que tu es allé voir au stade?
J'étais ce week-end à Zagreb. Je suis allé voir Dinamo Zagreb contre Lokomotiva.
J'adore!
Et puis les matchs de jeunes le matin, les U15, les U17. J'ai croisé Boro Primorac, qui est entraîneur des jeunes de Hajduk.
Boro Primorac
est responsable des jeunes, ouais, ouais. Tu vois, il y a des passionnés. Il ne doit pas le faire pour le pognon. Hein,
Qu'est-ce qu'il a fait, les mallettes? Il les a encore, les mallettes?
Non, mais c'est pas trop lui qui les a encaissés, je crois, les mallettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'Arsène l'a pris avec lui pendant des années. Hein. C'était un fidèle parmi les fidèles.
Il n'avait rien touché à l'époque.
C'était l'entraîneur de Valenciennes à l'époque. Pour ça que Daniel fait cette référence.
Tu remues des souvenirs pour tous nos amis.
Et moi, j'aime bien remuer.
Le derby de Zagreb, c'est du niveau correct ou c'était...
Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et en général, ils ont du mal. Justement, Dynamo, qui a quand même des moyens beaucoup plus importants, a du mal à gagner ce derby contre Lokomotiva. Mais là, ils l'ont emporté. Mais ils sont pas en tête du championnat.
Et t'as repéré le nouveau Modric ou il était pas là?
Il y a un joueur sur lequel ils fondent beaucoup d'espoir qui s'appelle Baturina, qui a 20 ans et que pas mal de clubs en Europe regardent. Quoi.
C'est une machine à former des joueurs, Zagreb. Ils ont toujours...
À sortir, ouais. Ouais. Enfin, bon, c'est vrai que l'autre jour, on regardait le match Real City. Il y avait Guardiola, il y avait Modric, il y avait Kovacic, quand même sur un terrain, les trois joueurs qui sortent de Dynamo. Quoi. Kovacic.
Ouais. Kovacevic.
Non, Kovacic.
Kovacic.
Matteo.
Oui. Kovacic.
Ah, oui, qui a joué au Real et qui a joué à l'Inter.
Bien sûr.
Tu vas pas nous énerver, Bruno, d'entrer en.
J'ai
toujours dit Kovacevic. Donc je vais corriger.
Mais non, c'est un autre.
Il y en a eu des Kovacevic. Ouais. Darko, ouais. Qui est entraîneur de la Serbie à l'heure actuelle.
Il y en a eu un Lens. C'est lui, c'est le Lensois. L'ancien Lensois. C'est pas lui.
Non, le Lensois, c'était. Il y avait Drobniak.
Non, il y a eu un Kovacevic à Lens.
Ah oui, c'était un milieu défensif. Non, lui, c'est Darko, celui qui a joué à Real Sociedad, à la Juve, qui a joué. C'était un mec costaud.
T'as toujours. Ça fait des années que tu fais ça maintenant. D'aller sur des terrains comme ça, à Zagreb et tout, t'es animé par la même passion de regarder des matchs entre des Kidam pour voir s'il y a dedans, il y a un talent.
Ouais, j'apprends et puis je venais voir.
Mais t'apprends encore à ton âge, ton expérience.
Bien sûr,
il a 27 ans.
Je trouve que c'est formidable. Mais ça parle à ceux qui nous écoutent.
C'est extraordinaire. C'est la fraîcheur, c'est le foot là. Donc j'ai rencontré il y a 3 semaines, 1 mois, le nouveau directeur sportif de Dinamo Zagreb qui s'appelle Marko Maric, qui a joué un petit peu à Lille à l'époque, qui a été blessé beaucoup et donc qui est pas resté très longtemps. Mais par contre, il a bien gardé le français. Qui parle remarquablement bien. Et bon, c'est un gars, je vous invite à l'inviter une fois, parce que c'est un mec top niveau. Il va faire un chemin, je suis sûr, dans ce métier-là. Et donc, il m'a proposé. Il me dit, pourquoi tu viens pas? Donc, je suis venu, il m'a invité. Et donc, il m'a expliqué un petit peu le fonctionnement du club. Il a pris les pleins pouvoirs maintenant que le nouveau président lui a donné. Le nouveau président, c'est Zajec. C'est un ancien grand joueur.
Donc, les Mamic, là, qui étaient tous rempli dans les histoires.
Voilà, tous les problèmes, tout ce qui était lié à la galaxie et Mamic, effectivement, maintenant, ils sont plus du tout présents au club, quoi.
Bon, voilà, c'est les histoires de Tonton Bruno. Il y en aura plein d'ici minuit, je pense.
Moi, j'ai connu ça, tu vois. C'est intéressant la question qu'on pose Daniel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens blasés dans le foot. Et j'avais été frappé par ça aussi chez un autre personnage du foot français, malheureusement trop tôt disparu, c'est Gérard Houllier, qui avait une image un peu parfois distanciée dans l'opinion, on le trouvait un peu hautain, etc. Mais Gérard, il avait cette capacité-là à s'enthousiasmer pour le foot, quoi. C'est-à-dire que tu lui disais, Gérard, il y a les 17 ans du Red Star qui jouent contre les 17 ans de la Courneuve et ça vaut le coup. Et il y a un truc à voir et il était toujours partant. Et c'est bien que c'est.
Moi, Gérard, je sais pas si, quelle image il avait, mais quand on le connaissait, c'était vraiment un type formidable.
Et qui avait une passion du foot.
Et il était capable de prendre du temps pour t'expliquer des schémas tactiques, des choses et tout. Il avait une patience. Il est vraiment, moi, après, j'ai bossé avec lui, je l'ai connu après en dehors. Et même, tu vois, s'il entendait qu'on pouvait dire des trucs, sur lui, machin, quand tu le retrouvais, il oubliait, il disait, viens, on va discuter, machin. Moi, je l'aimais beaucoup.
Ah, je sais pas si vous avez écouté Habib Bey, qui était dans Génération After tout à l'heure pendant une heure et demie. Là, t'as un autre passionné, quand même.
Bon, j'ai échangé il y a 2-3 jours avec lui, suite à la montée. Donc,
écoutez le podcast. Hein,
Gars, vous le voyez à l'entraînement, il est habité. Hein. Mm. C'est impressionnant.
Il a envie de faire ça depuis longtemps, Habib.
Ouais. Et il y en a pas mal qui l'attendaient au tournant, parce que c'est vrai que quand t'es consultant, quand tu parles dans les émissions, il y a un côté pas donneur de leçons, mais
bien sûr.
Daniel sera entraîneur du PSG, forcément il sera pas attendu au tournant.
Non,
président.
Ah pardon.
Non mais aussi attendu au tournant. Je t'assure que la pression, je vais l'accepter et l'assumer sans problème.
non mais là franchement, il a pris, c'est donné les moyens. Le club aussi a joué un rôle important. Parce que c'est pas un club lambda, on lui a donné aussi des moyens pour la division, des moyens importants, des moyens humains. On voit bien, je veux dire, il avait des adjoints qui sont partis entre-temps de grande qualité. Mais
le reste, il y en a un qui est devenu entraîneur de Lyon, entre autres.
Ouais, mais le reste du staff est très bon. Mais il a fait un super travail, parce que pour ceux qui sont allés à Boer, bon, Daniel, t'as pas eu cette chance-là, mais...
c'est quoi cette allusion?
Non, mais si tu regardes l'équipe en termes de talent individuel, franchement, il n'y a pas énormément de talent individuel. C'est vraiment un bloc, il y a un travail sur le plan collectif où tout le monde fait les efforts pour le voisin. C'est un travail remarquable, quoi.
Et puis on peut parler.
Habib, il y a un truc, c'est qu'il a fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il a accepté, ce qui n'est pas toujours facile quand on a été joueur de haut niveau, de repartir à la base, de repasser les diplômes les uns après les autres, d'entraîner avant d'être Red Star des équipes.
Il expliquait que ça lui a pris 4 ans.
De jeunes,
alors qu'il aurait pu partir en Angleterre, comme Patrick Vieira, par exemple.
En fait,
il aurait pu loper de Galles.
Tu dis ce que j'allais dire, j'allais ajouter en introduction. Une belle dose d'humilité chez lui quand même, parce qu'il est consultant vedette, il a envie d'entraîner. Je pense que d'autres seraient dit, je mérite peut-être tout de suite qu'on me donne un gros truc.
Ouais.
Et lui, non seulement il fait les choses dans l'ordre, comme tu l'as dit, et il va au Red Star, en national. Il faut y aller, national.
C'est pas la
grosse technique.
Après, il avait des moyens que beaucoup d'entraîneurs de national n'avaient pas. Là, au Red Star, c'est une grosse écurie du national.
Il faut y aller en national
C'est casse-gueule.
C'est pas
mais
du pur-sang, les
d'un
joueurs,
autre côté, il y avait aussi quand même le fait qu'il puisse conjointement continuer pendant un certain temps à faire consultant à un canal. Et donc, je pense que ça a contribué aussi, parce qu'à Cholet, je pense pas qu'il l'aurait fait, quoi.
En effet. Il serait peut-être descendu, même avec Cholet, parce qu'il descend, si je dis pas de bêtises.
Peut-être qu'avec lui, ils auraient fait mieux.
Bon, Cholet, c'est le basket. Hein,
notre événement ce soir dans l'after, c'est la présence parmi nous tout à l'heure de Willy Sagnol. Il sera avec nous, le sélectionneur de la Géorgie. Premier sélectionneur français d'une nation étrangère à un euro. Personne ne l'a fait avant lui. Bon, vous allez me dire, il n'a pas eu 50 qui ont eu des sélections.
Très honnêtement, j'aurais pas mis ça en avant. J'aurais dit simplement, sélectionneur qui a emmené la Géorgie à l'euro.
Exactement, petit
alors,
pays.
Alors, ok, c'est un euro avec plein de pays maintenant, mais un pays comme la Géorgie qui se retrouve en phase finale d'une grande compétition, pardon, mais elle est là, la perf.
Bon, il sera avec nous tout à l'heure à 23h. Avant cela, nous débattrons de l'état de l'arbitrage français et de ses problèmes du moment. On a plein d'infos à vous donner. Révélation également à venir concernant le fonctionnement du centre de formation du PSG. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes.
J'ai mon cahier.
Ah,
tu sais, quand je viens avec le cahier.
Moi, j'ai mon cahier arbitrage.
C'est mauvais signe.
Le cahier.
Ou c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va apprendre des choses.
Ah oui.
Stéphane, lui, veut donner son avis sur la suite de la saison de Brest. Ce sera également avant 23h.
Oula, je sens qu'il va être un peu négatif.
Est-ce que c'est le genre suspense de Stéphane d'être négatif?
Suspense.
Ouais, j'ai peur.
Et puis nous irons en Italie, en Espagne également, avant minuit, prendre des nouvelles de l'Atalanta, qui dans une semaine maintenant jouera sa demi-finale aller face à l'OM. L'Atalanta s'est qualifiée hier pour la finale de la Coupe d'Italie. Et puis Fred,
à l'OM où les coulisses commencent à s'agiter un peu.
Quoi, pour le futur coach?
Pas que pour le futur coach, pour le pouvoir.
Ah,
très bien. Oui.
Et puis, Fred Hermel nous expliquera pourquoi Xavi a changé d'avis et restera finalement l'entraîneur de Barcelone. On a également des directs ce soir. Il y a un match de Première Ligue entre Brighton et City. 3-0 pour City après 50 minutes dans ce match. Et puis, il y a un Paris-Barcelone ce soir en handball. Figurez-vous, autre confrontation européenne. C'est les matchs qualificatifs au Final Four de la Ligue des Champions de hand.
Pour l'instant, tout va bien, Gilbert. Paris perd à domicile au match aller. Tous les espoirs sont permis.
Voilà. Edgar Groslot est sur place, Edgar.
Salut messieurs, effectivement ça se passe pas très bien pour les Parisiens, 26 à 22 pour le Barça, il reste 3 minutes exactement dans le temps réglementaire de ce match, tout court, puisqu'il n'y a pas de temps additionnel évidemment, au handball, 22-26 en faveur du Barça.
Ouais, malheureusement au hand, les renversements de situation, c'est pas très fréquent.
Regarde là, ça arrive quand même.
À ce niveau-là,
le Barça c'est au hand,
si le Barça
c'est
gagne,
autre chose que le Barça au foot quand ce moment.
À tout à l'heure.
Avec ses joueurs français, le Barça.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h14, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Bruno Satin avec nous également ce soir. Premier dossier de la soirée, l'arbitrage. Parce que rien ne va plus, alors il y a un feuilleton arbitrage qui est en cours depuis maintenant plusieurs semaines. Messieurs, avec Stéphane Lannoy, qui a donc été éjecté gentiment de ses fonctions.
Anthony pas Gauthier, très gentiment.
Oui, on lui a mis un petit coup de pied aux fesses, quoi. Hein, voilà, Stéphane Lannoy. Oui, excuse-moi.
Expression.
Excuse-moi, j'étais déstabilisé par des choses qui, par les gens qui ne se tiennent pas bien dans le studio. Pas tout faire en même temps.
Bon, les mal autrui.
Les mal autrui, exactement. Bon, donc, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que les présidents de club commencent à parler.
Ah.
Grosse enquête de Loïc Braillet que vous retrouvez sur mcsport.fr qui nous révèle plein de choses là que je vais vous livrer. C'est très intéressant. Il reste 4 journées de championnat, donc évidemment, la pression monte et surtout les performances récentes de certains amène de l'inquiétude. Performance de Stéphanie Frappard, performance de Jérémy Pignard ce week-end. D'ailleurs, Jérémy Pignard, pour l'anecdote, il s'est fait virer de son match qu'il devait arbitrer là, il devait arbitrer Rennes-Brest. Gauthier l'a appelé, lui a dit ce week-end, tu restes à la maison, repos.
Mais il reste pas à la maison.
Excusez-moi, mais quand il fait ça, parce que Gauthier, dans le match de Brest-Lyon, après la rencontre, il avait également dit l'arbitre a été mauvais. Pour faire ça.
Mais il a été déprogrammé cet arbitre-là.
Ouais, mais Stéphane, tu conviendras quand même que quand le patron des arbitres dit ça, si t'es le club, ça te fait bien une belle jambe quand même. Ouais, parce qu'en gros, t'as le patron des arbitres qui dit vous êtes fait fourrer.
Que l'arbitre fasse partie du jeu. Il peut rater son match comme ton avançant peut rater son match en mettant toi à côté.
Le problème aussi là-dedans, c'est que quand c'est Turpin, hier, je répète, qui oublie un pénalty flagrant pour Lille, c'est quand même un résultat hyper important dans le dénouement de la saison française. Là, il est déprogrammé, il est contesté.
A priori, non. Je ne sais pas quelle est sa programmation de week-end.
Cet argument, je l'entends. Ce que tu dis, il a raté son match, ton attaquant a raté son match.
Bah oui.
Sauf que, quand ton attaquant rate son match,
on dit que c'est l'équipe.
Que ce n'est pas le premier, machin, ceci, cela et tout. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On s'interroge, on se dit comment cet attaquant est arrivé dans ce club, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une erreur de recrutement, est-ce que la politique sportive du club est bonne. Et quand il s'agit des arbitres, on ne le fait jamais. Parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à comment ça fonctionne réellement. Mais si tu ne t'intéresses à comment ça fonctionne réellement et que t'enquêtes un petit peu, et j'ai eu l'occasion aujourd'hui de discuter un petit peu avec des gens, tu te rends compte que tout ce qui arrive aujourd'hui et l'aboutissement d'un process, parce qu'on est aujourd'hui dans un paradoxe qui est assez formidable, à savoir qu'on a deux arbitres qui vont être en demi-finale de Ligue des Champions et qui donc vont porter haut les couleurs de la France. Et on va dire, ils sont bons les arbitres français. Et que derrière, t'as un marasme avec quasiment chaque semaine des matchs qui semblent être faussés par des décisions. Sauf que c'est un process dans le recrutement, un process dans la désignation pour les matchs. Comment on les désigne? Parce que quand on disait que Frappard, elle était désignée.
Je suis obligé de te couper parce que score final au hand, s'il te plaît, Edgar, parce qu'après, il doit aller partir par la réaction, c'est pour ça.
30 à 22 pour le Barça, 8 buts d'écart, ça va être très très compliqué de remonter ça au match retour à Barcelone.
Merci, Edgar.
Il y avait plus 3 à la mi-temps pour le PSG.
Quand on disait que Frappard avait été nommé pour de mauvaises raisons, tout le monde sait que c'était vrai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle a pu s'en sortir, parce qu'il faudra en parler tout à l'heure, mais le VAR a nivelé le niveau des arbitres, et dans le mauvais sens. Il se passe aujourd'hui qu'elle ne sera pas à l'Euro, alors qu'on l'avait emmenée à la Coupe du Monde, toujours pour de mauvaises raisons, et qu'elle sera même pas au JO. Donc elle est complètement déclassée.
Et que ça devait être très dur aussi pour elle. Il faut aussi parler de l'état psychologique.
Absolument. Oui, mais
quand on l'utilise les gens comme ça,
voilà.
Pour des raisons politiques,
Stéphane, et ça, c'est les effets négatifs d'un système que je n'aime pas. Ça s'appelle la discrimination positive.
Ou le système de cour, oui.
Voilà. Et puisqu'on le dit pour Frappard, tu as le droit également de t'interroger et de demander comment certains arbitres sont nommés, désignés, pourquoi on considère à un moment qu'ils sont importants ou moins importants, est-ce qu'ils le sont pour leur qualité ou est-ce qu'ils le sont parce qu'ils appartiennent à une ligue, que le patron de cette ligue-là est un monsieur important, qui est bien vu à la Fédé et qu'on veut faire plaisir à un tel et un tel et un tel, est-ce qu'on recrute et est-ce qu'on met les arbitres pour leurs compétences ou est-ce qu'il y a un phénomène de cour ou comme il y a aujourd'hui. Ce que tu vois dans l'arbitrage, c'est ce que tu vois un petit peu dans une société tout entière. Quand le mérite n'intervient plus, le mérite aujourd'hui, c'est un gros mot. Le mérite aujourd'hui, c'est fasciste dans les analyses politiques.
N'exagérons rien.
Mais bien sûr que si. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, le mérite, c'est très mal vu. C'est une valeur. On est dans l'égalitarisme. Et dans ça conduit à des discriminations positives.
Quand tu parles de mérite,
surtout dans le symbolique. Tu vois, quand on est-ce qu'un ministre des Sports a le mot mérite en France ? Non, il est nommé en symbolique.
Il y a
qu'un homme de 50 ans qui le mériterait.
Il y a des intérêts. En fait, c'est quand on soupèse. Quand je dis le contraire du mérite, c'est quand tu soupèses. Ah non, il faut que tu mettes un petit peu de sel ici parce que ça fera plaisir à un tel. Et puis il faut mettre un petit peu de ça ici parce que tu arrives à ce système où aujourd'hui, effectivement, l'arbitrage français est en déliquescence totale.
Attends, Bruno, si tu ajoutes à ça
le VAR qui a donné l'impression que c'était facile d'arbitrer, parce que ça c'est un des effets négatifs du VAR, ça a été ça, c'est de se dire même si on met un mec pas terrible, il peut s'en sortir parce que de toute façon on va l'appeler, il va aller contrôler. Et ça a tout nivelé le VAR en fait, c'est que ça a donné l'illusion que le bon arbitre, d'abord tu l'as dit mille fois, mais on a déresponsabilisé les arbitres parce qu'ils avaient en gros la bouée de sauvetage d'aller voir et tout. Mais tu t'aperçois que si dans le bus, enfin pas dans le bus, mais derrière l'écran, tu mets des pas bons sur le terrain, un moyen, machin, bah l'addition des incompétences, non, ça donne pas incompétent, quoi.
Bruno, tu voulais dire un peu.
Non, mais enfin bon, après, on voit bien ce qui se passe en France. Après, c'est le bal des égos. C'est-à-dire que et on le voit bien avec Turpin, par exemple. Je veux dire, lui, bon, il est avec les mecs du VAR, il est en combine, et donc lui, de toute façon, il se déplacera pas. Il a bien vu, forcément. Sauf que hier, bon, il y a péno à la 85e, ça fait un au lieu d'un zéro.
Attendez, je vous raconte une histoire sur justement là-dessus que nous explique Loïc Braille. Lors du match Lyon-Nice, donc raté par Turpin, rappelez-vous, l'arbitre VAR était Cyril Gringor.
Ah, son pote.
Et son ancien assistant.
Il était toujours son juge de ligne.
Voilà.
Toujours un blond, on connaît sa tête.
Et qui a
toujours son assistant d'ailleurs.
Et donc en fait, il y a un président de club qui dit sous le sceau de l'anonymat, comment voulez-vous que Gringor, qui a la VAR des juges Turpin, il doit sa carrière à Turpin ?
Il l'a fait bouffer toute sa vie. Ouais.
Bah, non, mais le grand
donc
problème,
c'est pas possible.
Mais c'est là c'est le problème.
Ce qui est très grave aussi, c'est de dire que le VAR, c'est tout le problème de l'organisation du VAR et de savoir. Le VAR n'est pas là pour juger ou déjuger l'arbitre. Il est là pour aider, accompagner l'arbitre. Donc hier, le VAR, c'est pas
ad nominem
contre Turpin. Hier, si le VAR lui dit il y a pénalty, c'est tout.
Non, mais il doit l'appeler.
Il doit pas possible de pas
sûr,
l'appeler.
Bien sûr. C'est impossible. Le système, c'est impossible. Erreur manifeste, je l'appelle.
Ouais. Mais,
or, on voit qu'il y a on peut appeler ça des petites combines. Je te connais, m'emmerde pas, m'appelle pas, fais pas ceci, fais pas cela. Soutiens-moi, même s'il y a une connerie. Parce que après, quand il y aura les notations, machin. Donc quand on parle de l'arbitrage, c'est le système.
Ouais, mais il se ridiculise.
C'est le système.
C'est pire. En ne se déplaçant pas, c'est pire. J'ai entendu Borghini tout à l'heure qui disait ah ouais, s'il y a un carton rouge dans les trois premières minutes.
Le rôle de Borghini dans cette histoire.
Bah non, mais bon, enfin, je veux dire, là, c'est tu je te tiens, tu me tiens.
Je continue les infos. Le même président de club sur Turpin et Gringor dit ces deux-là ont passé plus de temps entre eux qu'avec leurs femmes. Bon, dans leur carrière d'arbitre. Alors, les présidents de club sont très énervés. Le championnat est faussé, dit l'un d'eux. Ils sont pas contents de l'organisation. Voilà. Et après, ils ajoutent. On sait que vous savez ce que c'est que le CFA, hein. Le CFA, c'est la Commission fédérale de l'arbitrage, dirigée donc par Borghini. Un président de club dit, on sait que le CFA protège les meilleurs. Il y a des intouchables qui ne peuvent pas, ne doivent pas être mis en cause par la VAR. Donc je pense que là, effectivement, Clément Turpin,
on est encore dans un problème de système.
Qui sont visés. Les présidents ajoutent, il faut savoir qu'être arbitre aujourd'hui, c'est un ascenseur social extraordinaire. Oui. Certains touchent plus de 120 000 euros par an, ça change la vie. Et évidemment, ils ne veulent pas risquer d'être rétrogradés. Donc, ils sont aux ordres de ceux qui ont le pouvoir, à savoir la CFA. Il y a aussi pas mal de présidents qui sont en colère contre Borghini, que citait tout à l'heure Bruno, qui est le patron
de la Fédération française de foot, lui.
Exactement.
Ouais, je représente le Collège des arbitres.
Et pas mal de présidents, je finirai là-dessus, en veulent également au président actuel de la Fédé, Philippe Diallo. Ils disent, en gros, Diallo, c'est courage fuyons. Il prend pas le problème à bras le corps. Bon, voilà, les présidents sont ultra remontés. Alors, ultra remontés, il faut aussi dire que
c'est la guerre Ligue Fédé.
Ils sont ultra remontés parce qu'ils sont à 4 jours de la fin, puis que chacun joue un peu aussi son truc.
Non,
et puis,
ils sont remontés.
Ils ont chacun leurs enjeux.
Parce qu'il y a l'opposition. Parce qu'ils sont dans l'opposition Ligue Fédé, qu'ils aimeraient bien finalement contrôler l'arbitrage parce qu'ils disent après tout, le foot, c'est nous qui le payons, donc les arbitres, on va contrôler. Mais si le contrôle, ça doit juste aboutir à des engueulades comme il y en a eu et à des inventions de la LFP, parce que Monsieur Lannoy, qui lui pour le coup fait plutôt partie des compétents, mais si la seule solution que va donner la LFP pour résoudre ce genre de problème, qui est un problème de compétence de l'arbitrage, de comment tu les fais travailler, comment tu les fais progresser, et si la seule réponse c'est on va mettre de la sonorisation ou on va inventer des gadgets de ce truc-là, c'est du blabla et du pipo, ça.
Oui,
c'est
mais
pas
après,
ça qui va changer la nature de l'arbitrage. Ah, parce que c'est pas parce qu'on va entendre le mec dire monsieur, non, il n'y a pas pénalty, là. Il n'y a pas pénalty parce que j'ai vu.
Moi, quand même
et j'ai
expliqué.
J'en ai rien à foutre, moi, de l'entendre. Mais en quoi ça va t'aider?
Si, parce que ça, ça, c'est la pédagogie, en fait, Daniel.
Donc, quand il va expliquer hier, il y a le deuxième carton jaune sur Mumbanya, s'il te l'explique, tu vas dire.
Moi, tu comprends.
Ah oui, il a bien expliqué. On en a rien à foutre.
Non, c'est faux. Parce que si tu comprends la décision, tu diras, bon, il s'est trompé, mais moi je comprends pourquoi il s'est trompé. Et ça change beaucoup de choses.
Mais
arrête.
Non, mais après, on ne peut pas tirer en règle, mais moi je pense qu'aussi, il y a ce climat délétère au niveau français avec cet arbitrage. J'étais il y a 15 jours voir Real Madrid City avec un arbitre français, le plus beau match de l'année qu'on a vu jusqu'à maintenant, et il a été excellent.
Oui, c'est le paradoxe.
Mais pratiquement maintenant, on est soulagé. On a envie de dire.
Il est très bon en Ligue des Champions.
Écoute, mais on n'a pas de chance. Non, mais il faut quand même qu'ils dégonflent leur boulard. Je pense qu'il y a un body language. Il faut qu'ils fassent preuve un peu d'humilité. Il faut qu'ils fassent preuve d'autorité, mais avec un peu de flexibilité. Et à ce niveau-là, il y en a qui en manquent singulièrement. Je veux dire.
Enfin, Bruno, sur la soirée d'hier, c'est pas un problème de rapport de l'arbitre aux acteurs du foot. C'est un problème d'application des lois du jeu. C'est ça le problème.
Ouais.
C'est pas, moi, je trouve que, en termes de comportement, ça s'est plutôt quand même amélioré. Mais par contre, cette année, on a des controverses permanentes sur des applications des règles du jeu, tout simplement.
Oui, bah parce que avant, si tu veux, quand il y avait une semelle, elle n'était pas décryptée comme ça. Et puis donc, dès qu'il y en a un qui pose, quelle que soit l'intensité de la semelle, bon, ça donne lieu à un carton jaune, carton rouge. Donc, et là, forcément, l'arbitre est appelé. Mais par contre, bon, enfin, quand il y a manifestement, enfin, au moins matière à revoir, comme c'était le cas sur le tacle sur Thiago, le Lillois, c'est pas possible de pas revoir. Quoi.
Tony au 32-16 est avec nous. Salut Tony.
Salut monsieur.
Bon, tu nous écoutes là, amener des éléments au dossier, débattre. Comment tu te positionnes toi?
Vous avez dit plusieurs choses. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir déjà. Parce que là, vous parlez de la partie des arbitres qui ne veulent pas se faire déjuger par la VAR, de sorte de système qui est mauvais, qui fait qu'ils ont l'impression eux-mêmes de se faire déjuger et donc ils ne font pas une bonne prestation et donc ils vont pas avoir la VAR. Ou s'ils vont la voir, ils agissent pas, parce que faut quand même rappeler que dans Marseille-Nice, il va voir la VAR sur le penalty, il jette un coup d'œil, c'est risible, jette un coup d'œil, il dit non, il y a penalty. Donc vraiment, il peut pas se déjuger, c'est encore plus ridicule. Mais il y a aussi l'inverse, il y a aussi les arbitres qui n'arbitrent plus et qui laissent la VAR arbitrer à leur place.
C'est vrai.
Donc on a ces deux-là, donc ça c'est les problèmes qui sont venus avec la VAR. Moi, j'étais assez favorable à la VAR, mais quand je vois son application, j'ai de plus en plus de mal. Et après, il y a un autre débat qui est vraiment l'application des règles du jeu en Ligue 1 et la façon d'arbitrer en Ligue 1. Parce que c'est quand même incroyable qu'on voit des arbitres français en Coupe d'Europe être bons, laisser jouer et qu'on puisse profiter du jeu et voir des fautes sifflées toutes les deux minutes pour des excès d'engagement en Ligue 1. Ouais. L'excès d'engagement, je suis désolé, c'est jamais sifflé en Ligue des Champions, en Europa League. Jamais. Là, Mumbanya hier, moi je suis supporter niçois, Mumbanya hier sur son jaune, mais il n'y a même pas faute le deuxième jaune. Il n'y a même pas faute.
Ouais, oui.
Il est un peu en retard. Mais enfin, franchement, on récupère le ballon derrière, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et je trouve ça fou. Et ça amène d'ailleurs une dernière question que je voulais vous poser. C'est vraiment une question sincère. Est-ce que quand il y a un deuxième jaune qui amène un rouge, la VAR peut appeler l'arbitre? Ça, je ne sais pas.
Mmh. Ben, normalement, de toute façon,
Rouge avait parti.
Non, mais je constate que de toute façon, les cas initiaux d'utilisation de l'avoir sont complètement dévoyés aujourd'hui, en fait.
Bien sûr.
Donc, potentiellement, on peut taper pour tout maintenant. Voilà.
Non, puis il y a une interprétation qui est différente de l'avoir d'un pays à l'autre.
En plus.
Il y a de bons joueurs en Angleterre, ça va beaucoup plus vite.
Ben ça, c'est ancestral au foot. Hein. On n'a jamais arbitré partout de la même façon, Bruno.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence, comme le dit l'auditeur, il y a une différence énorme avec les mêmes arbitres sur les matchs qu'ils arbitrent en championnat de France ou en Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, là, ils sont conditionnés. Alors, il y a des consignes aussi de Rossetti, hein, le chef des arbitres de l'UEFA. Donc, en Coupe d'Europe...
Chaque compétition, enfin, il y aura l'Euro dans 3 semaines, dans 2 mois, je veux dire.
Tout sera assemblé.
Et il y aura encore une décision ou deux d'arbitrage qui vont être annoncées avant la compétition, qu'on n'aura jamais vu, comme l'histoire des temps additionnels pendant la Coupe du Monde. Ouais. C'est sorti tout à coup du chapeau, tiens, hop, on vous sort
les temps additionnels. Mais paradoxalement...
Pourquoi
la semaine prochaine, demi-finale de Coupe d'Europe, on a un arbitre qui va arbitrer Bayern-Real, Turpin, et un autre, le Texier, qui va arbitrer Roma-Leverkusen.
Ça veut dire qu'on est meilleur politiquement dans les instances.
Il y a énormément de choses.
Ça accrédite la thèse du bordel franco-français qui déstabilise les gars et qui sont sans doute beaucoup plus sereins et tranquilles quand ils arbitrent les matchs de Coupe d'Europe.
Tiens, un ami que tu connais, Gilbert, Ivan Asek, il avait été en son temps, maintenant il est sélectionneur, mais il a été président de la Fédération tchèque. Il m'avait expliqué, il m'a dit, il y a un jeu d'influence au niveau des arbitres, la nomination des arbitres, chaque fois qu'il y a un match, que ce soit un match international ou un match de Coupe d'Europe, c'est phénoménal les lobbies qu'il y a. Juste sur la nomination. Hein.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est un petit peu...
Tu vois bien, de toute façon, par les choix des nationalités, que c'est politique. C'est pas qu'au mérite non plus.
Non, et puis il y a autre chose qu'on ajoute. On dit toujours, oui, les arbitres, c'est une équipe. Mais c'est pas une équipe du tout. Entre eux, ils sont
en concurrence
permanente. Il y a eu des histoires quand même dans le passé assez dingues. Moi, je me souviens de Bruno Durien ici nous racontant comment il y avait eu des piratages de notes certaines années, parce que les mecs voulaient savoir à l'avance, avaient la possibilité en piratant de changer leurs propres notes. Enfin, c'était quoi pour surréaliste, quoi. Donc, voilà, c'est ça le monde de l'arbitrage.
Comme dans d'autres domaines du football français, il manque un patron et il manque une voix, quelqu'un qui explique les
maintenant,
choses
sur le plan éthique,
qui soit capable aussi de communiquer clairement.
En France, la Ligue paye les arbitres et ils sont gérés par la Fédé. Donc la Ligue râle en disant on paye et on décide pas. Mais moi, excusez-moi,
c'est très bien qu'ils décident pas.
Moi, je sais ce que j'allais dire parce que la Ligue, c'est quand même les présidents de club qui sont au sein de la Ligue, qui sont les décideurs. Moi, je trouve ça éthiquement gênant que les présidents de club décident eux-mêmes des arbitres, puisque ça concerne leur propre club.
Pourquoi la Noël a été virée? Parce qu'il a texté pendant un match que l'arbitre se plantait auprès de la présidente de club. Il l'a révélé. Donc, faut surtout pas rentrer dans ce système-là. Il faut les protéger.
Exactement.
Mais bon, globalement, et après cette journée ratée...
Le président de la Fédération Française de Foot, sur ce sujet-là, devrait être extraordinairement présent par la communication, dans la décision et dans la défense. C'est à lui de défendre ses hommes et de remettre de l'ordre dans la vision de l'arbitrage.
Il a répondu à une interview il n'y a pas longtemps, il a répondu sur la question, mais pas beaucoup plus.
Bah non, mais un peu comme sur toutes les questions, d'ailleurs.
Bon, voilà pour l'arbitrage. Merci, Tony.
On a un bon et fort président,
qui n'a pas été élu, donc c'est toujours pareil. Quelle légitimité là, ce président-là? Il est arrivé il était le suppôt de celui qui a été mis en cause et il n'a pas été élu. Donc la légitimité, elle est très moyenne quand même.
Tony, oui, tu voulais nous dire?
Ouais, désolé. C'est juste que il y a une dernière chose quand vous parlez de politique, je suis totalement d'accord avec vous. Et il suffit de voir le cas de Stéphanie Frappard, qui est quand même, je vais dire une arbitre parce que c'est la seule qu'on a au niveau, qui est quand même une arbitre particulièrement médiocre, qu'on a poussé parce que c'est l'image justement féminine de l'arbitrage européen et français. Et sauf qu'on se rend compte maintenant qu'elle est tellement incompétente qu'on peut même plus l'envoyer dans les grandes compétitions. Je crois qu'elle a même pas été sélectionnée à l'Euro. Donc évidemment que c'est politique, évidemment qu'on manque de transparence sur les barèmes, sur comment les arbitres sont notés, comment ils sont choisis.
Mais bon, c'est comme les joueurs, il y a des formes et il y a des méformes. Donc là,
Stéphanie Frappard, moi je crois qu'elle a fait des fois, moi je l'ai vu faire la Coupe du Monde féminine, elle avait été très bonne. Elle a fait la finale d'ailleurs et
elle a fait la finale de la Conférence League, je crois, quand c'était à Bakou, si je me souviens.
Après, elle n'est pas sélectionnée, il y a deux arbitres français sélectionnés pour l'Euro, donc c'est pas non plus. Mais c'est vrai qu'elle fait une saison catastrophique, mais encore une fois, dans quel état psychologique cette dame là est, voilà. Est-ce qu'elle est protégée par ceux qui devraient la protéger? Est-ce qu'elle est mise en danger? C'est la vraie question qu'il faut se poser aussi.
Après les révélations sur l'arbitrage, dans quelques instants, les révélations sur le centre de formation du PSG.
Que de révélations.
Ah, je vois Bruno qui fait une grimace.
Bah non, moi j'attends ça avec impatience.
C'est tout de suite dans l'after. 4-0 pour City pendant ce temps-là sur le terrain de Brighton à 19 minutes de la fin du match.
C'est important, hein, parce qu'ils ont une différence de but compliquée par rapport à Arsenal. Ouais. Il faut qu'ils empilent.
À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h35, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là, Bruno Satin avec nous ce soir, je l'ai dit, l'agent 001 est là. Et tout à l'heure, Willy Sagnol nous rejoindra à 23h pour raconter son épopée géorgienne. Il jouera l'Euro avec la Géorgie. Willy, il sera avec nous tout à l'heure. Mais là, tout de suite, on va parler du centre de formation du PSG. Les révélations ont commencé il y a quelques jours dans l'équipe. Et nous aussi, on en a d'autres à faire ce soir, Daniel. Car ce centre de formation, on va dire, a un fonctionnement, comment le qualifier, un peu baroque.
Surtout depuis l'été dernier et l'arrivée du nouveau patron, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle donc Mehdi Rahoui, nommé l'été dernier et qui entre officiellement en fonction, même s'il avait commencé à bosser, mais on va dire juridiquement, depuis le début de cette année. Le sujet des centres de formation, moi je trouve que c'est absolument passionnant. J'imagine que tu sais, Bruno, tu as vu ça, tout ce qui peut s'y passer dans un centre de formation, parce que c'est là que naissent les espoirs, les fantasmes. C'est là que rôdent beaucoup de gens. Il y a une sorte de mélange. Bon, d'abord dans le centre de formation. Alors là, je vais parler du côté scolaire, parce qu'on oublie quand même que la plupart des centres de formation développent le côté scolaire et que c'est très important pour les parents de se dire que le gamin ne va pas évoluer que d'un point de vue du sportif, mais que le niveau scolaire est également très important.
Enfin, c'est ce qu'on leur vend, quoi.
Oui, c'est ce qu'on leur vend. Et comme il y a en même temps, c'est la course au bac. Les parents veulent d'abord pour la symbolique que les enfants aient le bac et qu'il y a en plus il y a les classements et les concours du centre de formation qui a tel
ça donne des points,
taux de réussite, ouais. Ça donne des choses importantes et au PSG ils se traînent un peu parce qu'ils n'étaient qu'à 32% de réussite au bac, quand tu vois que la moyenne nationale elle est quasiment à
90%. Elle est à 90%.
Ouais. Ouais, 32%, c'est le pire de la U-France.
C'est un vrai problème. J'ai raconté mille fois à quel point il pouvait y avoir des problèmes, notamment suite à ce questionnaire qui était envoyé par la LFP et que les gamins remplissaient sur des questions, on va dire, un petit peu sociétales et que les résultats étaient absolument catastrophiques. Donc, des ateliers avaient été créés pour les gamins du centre de formation du PSG pour les éveiller à pas mal de questions et faits de société. Donc, c'est une question qui est absolument essentielle. Et là où ça m'intéresse, quand je parlais d'espoir et de fantasme, c'est que évidemment, même un directeur d'établissement se sent absolument honoré lorsqu'il dit. En fait, c'est ça, c'est que ce sont des jeunes de la préfo jusqu'à, donc on parle de 10 ans jusqu'à 18 ans, mais savoir qu'ils fascinent à ce point, alors qu'ils ne sont pas encore connus, qu'ils ne sont pas encore des stars, mais
et que beaucoup ne le seront jamais.
Aussi, j'ai même eu, alors j'ai eu énormément de gens au téléphone qui travaillent à la vie, enfin on va dire dans le côté pédagogique école. On entend des choses très étonnantes comme vous savez, il y a des profs limite, on se demande s'ils travailleraient pas gratos juste parce que c'est le PSG, parce qu'ils vont être avec des futurs stars. Bon, les parents évidemment la pression, parce que les parents veulent que et le môme et le bac et surtout qu'il réussisse sa carrière. À la fin de la seconde, il y a les premiers contrats aspirants. C'est là que ça devient un petit peu chaud, tendu, parce que il faut être dans les clous pour signer ce contrat. Tout ça est très important. Donc on a une sorte de melting pot, de mélange, directeur, les profs, les parents, les enfants qui sont un peu des petits rois, quoi. Au final, on fait très attention à eux. Quand c'est un gamin un peu plus important, comme Ethan Mbappé ou Warren Zaïre-Emery, il a des cours de renfo, des cours particuliers à part ou des choses comme ça. Et donc il se trouve que, une fois cette introduction passée, depuis qu'est arrivé Mehdi Rahoui, on est face à une personne. Vous n'oublierez pas, à la fin, Stéphane, je compte sur toi pour me demander pourquoi et comment il a été nommé. Parce que ça reste absolument le grand mystère de toute cette enquête. Et je n'aurai que des hasards à te proposer et tu verras ce que tu feras de ces hasards.
Compte sur moi, Daniel.
Et effectivement, quand... Au bout d'un moment, tout le monde se plaint du fonctionnement. Tu te dis une personne, deux personnes, trois personnes, ça passe encore. Quand tu te dis, bon, quand un nouveau patron arrive dans une boîte, t'as toujours des gens qui sont pas contents, parce que ça bouscule les habitudes. Quand t'as cinq profs en ce moment qui sont en arrêt maladie et que c'est monté jusqu'à neuf en à peine un an de présence, tu dis qu'il y aura un fonctionnement qui est quand même un petit peu curieux. Quand le fonctionnement conduit à des dysfonctionnements et des affaires qui tourne à quelque chose d'un petit peu plus grave, c'est là qu'on se dit qu'on se demande si le club ne doit pas faire un petit peu plus attention à tout. Alors, il y a quelques petites affaires que je vais vous proposer. Bon, la plus grave, c'est celle d'un recrutement l'été dernier d'un prof. Alors, vu qu'il y a les enquêtes en cours et tout, je ne vais pas dire les noms, on va éviter de les mouiller et tout ça, hein, mais bon... Donc un prof qui l'été dernier arrive, recruté donc par ce Mehdi Rahoui, qui, je l'ai eu au téléphone, se défend en disant que tous les contrôles ont été faits, qu'il était clean et que tout devait bien se passer, mais malheureusement tout ne s'est pas bien passé parce que le mec, quand il est arrivé, ce prof en question, au lieu de parler d'école, il faisait que parler de foot. On avait vraiment le sentiment que c'était, il avait réussi le coup de sa vie d'entrer dans un club où il allait côtoyer des gens, peut-être avoir des places et tout. Et ça s'est terminé en affaire grave, puisqu'on est face à un cas de harcèlement avéré. Le gars a été mis à pied le 22 novembre dernier. En fait, très rapidement, ils se sont aperçus qu'il avait chopé tous les snaps et les insta de tous les gamins de seconde et qu'il envoyait les messages le soir. Nous n'avons pas de cas précis d'attouchement de choses là, mais des messages assez compromettants et une conduite totalement inappropriée parce que dans les messages, en gros, il dit, ah, si tu veux, je vais m'occuper de toi, je pourrais être ton conseiller, je pourrais être ton agent. Et quelques messages un petit peu plus compliqués, du genre, comment ça se passe sous la douche pour toi?
Carrément, à ce point-là.
Tu comprendras que c'est un peu plus problématique. Ces deux enfants ont été entendus par des psys. Le psy n'a pas noté de traumatisme, mais il a dit heureusement qu'ils sont venus à temps pour en parler. Un s'est un peu lâché, l'autre pas du tout, c'est très fermé. Donc ils l'ont viré. Donc jusque-là tout va bien, mais le recrutement a quand même posé problème de cette personne-là. Et puis une autre histoire, parce qu'en fait le problème, ce sera la question que tu me poseras, c'est ce gars-là n'a pas les compétences. En tout cas, tous les gens que j'ai interrogé me disent, il n'a pas la compétence pour être un chef d'établissement.
C'est un ancien CPE, hein, c'est ça?
C'est un ancien CPE. CPE, c'est pas directeur d'établissement, c'est pas chef d'établissement. Ce sont des diplômes qui sont différents pour être chef d'établissement. Lui affirme être diplômé et avoir un chef d'établissement. Tous les gens que j'ai eus et nombreux disent que c'est pas vrai, qu'il n'a pas ce diplôme-là. Il ne peut pas être chef d'établissement et que c'est notamment pour ça qu'il prend beaucoup de décisions qui sont juste pas bonnes.
Et on rappelle qu'un chef d'établissement, en tout cas dans l'enseignement public, n'est pas celui qui recrute l'équipe éducative. C'est une fonction administrative, c'est pas une fonction managériale.
Donc, dans son management, en mode un petit peu tyran, il a viré les profs qui leur plaisaient pas, en inventant des histoires sur leur diplôme. Il y a pas mal de profs. Bon, l'histoire la plus marquante, c'était effectivement le prof d'anglais de Ethan Mbappé et de Warren Zaïre-Emery, viré sur le champ parce qu'elle a osé poser une question visiblement qu'elle lui a jugée déplacée. Donc évidemment, toutes ces histoires vont se finir au prud'homme, hein, parce que les gens vont pas accepter de se faire virer de cette façon-là. Donc il a fait une sorte de grand ménage comme ça. Et effectivement, à chaque fois, ça revenait. Mais en fait, il ne peut pas prendre les bonnes décisions parce que il n'a pas les diplômes pour être là. Une autre décision qu'il a prise, et qui, je pense, va faire du bruit, même si pour l'instant, les gens la nient un petit peu. On dit c'est pas vrai, mais moi je sais que c'est vrai. Il a, c'est comme une pension parfois le week-end où les gamins restent. Et il avait demandé à une jeune fille qui est pas du tout habilitée, qui a pas du tout les diplômes pour faire ça, de garder les gamins. Et notamment, elle devait garder les gamins de 10-11 ans. Sauf qu'elle est partie discuter avec les gamins un petit peu plus grands, parce qu'elle-même était jeune. 22 ans. Elle est partie avec les U18, elle a un peu abandonné les gamins, sauf qu'il y a eu un cas on en a victimisé un, carrément un peu martyrisé, les doigts coincés dans la porte, on lui a acheté ses affaires et tout ça. Ils sont mal tombés parce qu'il se trouve que le gamin est de la famille de l'émir.
Ah oui.
Donc, réunion d'urgence que vous avez.
Et normalement, à 10-11 ans, ils sont pas au centre de formation. Enfin, lui, il est peut-être hébergé là. Quoi.
Voilà, il s'est hébergé à Verneuil. C'est là où ils sont. Et donc, cette histoire a donné lieu à. Je peux imaginer que la famille de l'émir, on avait dit, vous faites bien attention à lui, là, vous me mettez sous cloche. Et un week-end où ça se passe mal comme ça, bon, je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour lui maintenant. Alors, on me dit, non, mais cette histoire n'est pas vérifiée. Je pense que j'ai entendu parler de la réunion qui a suivi l'événement le lundi dans le bureau, qui montre qu'on est plus près de la vérité qu'autre chose. Voilà pour le fonctionnement et évidemment que ça porte préjudice aux parents qui évidemment quand ils ont eu vent de l'histoire du prof harceleur qui a été viré tout de suite se sont mis un petit peu en panique et c'est là qu'interviennent un petit peu des relations bizarres parce que on se rend compte qu'il y a tellement d'intérêt que les parents, alors attention, je ne dis pas qu'on leur dit de pas dire, je ne dis pas qu'on étouffe les affaires, mais en fait il y a tellement d'intérêt que les parents, ils se disent, à la fin de l'année, il y a le contrat d'aspirant. Si on fait pas de vagues, c'est quand même un petit peu mieux. En fait, il y a tellement d'intérêt autour de ces jeunes qu'on cherche tout le temps à calmer un petit peu, à pas dire vraiment les choses. alors que c'est très compliqué de gérer un établissement. En plus, on a tout rassemblé désormais à Poissy. On a fait un truc absolument fantastique où tous les jeunes sont rassemblés là. Ils sont en cours, ils sont à l'école tous ensemble, ils jouent au foot. Mais il faut des gens compétents pour gérer ces gamins-là. Il n'y a pas que la partie football qui est importante, il y a également l'école. Donc, la question, Stéphane.
Comment a été recruté Mehdi Rahoui, Daniel?
Il n'y a que des hypothèses, mais une hypothèse qui est soulevée par plein de gens dans le club, parce qu'on s'est dit pourquoi il est là, quoi. Et je n'ai trouvé que des hasards. Le premier des hasards, c'est que ce monsieur est de Beauvais et qu'il a grandi pas loin et proche de l'agent Sissoko. C'est Moussa son prénom, Bruno?
Moussa Sissoko. Ouais.
Voilà. Que c'est un hasard qu'il ait été nommé cet été. Que c'est un hasard si cet été Dembélé et Colomani ont signé au club. Et que c'est un hasard si c'est Nasser Al-Khelaïfi qui a dit qu'il fallait le nommer. Et que tous les gens.
L'agent des deux joueurs que tu as cités, voilà. Donc, est Moussa Sissoko.
Et que tous les gens m'ont dit, nous, on comprend pas. Et que, à part une décision politique, on voit pas pourquoi cet homme-là a été nommé. Lui dit avoir tous les diplômes et avoir toutes les compétences pour être là. Je n'ai que ces hasards. Voilà. Parfois, le hasard fait bien les choses. Et les dysfonctionnements dans un centre de formation peuvent également s'expliquer par des soucis de ce genre-là. En tout cas, je le répète, il y a des affaires d'harcèlement qui sont en cours. Harcèlement sur les profs, harcèlement moraux, parce que son fonctionnement est décrié, parce que tout le monde le décrit comme un tyran prêt à virer sur le champ, à licencier à tour de bras. On me dit oui, c'est juste parce qu'il a bousculé des habitudes, parce qu'il y a des gens qui le défendent quand même. Peu. Il y en a quelques-uns, il me dit oui, c'est juste qu'il a bousculé les habitudes et que les autres sont des chouineurs.
C'était la position du club dans l'équipe. Dans ce que j'avais vu dans l'équipe, c'était ça.
Voilà. C'est en gros, quand un nouveau patron arrive.
Il bouge des lignes.
Il bouge des lignes. Voilà. Voilà donc où on en est.
Dans un instant, vous pouvez réagir au 32-16, évidemment.
C'était très intéressant.
Non, Stéphane a donné son avis, Bruno également.
Je bois tes paroles, Daniel.
Le débat continue. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h48, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, Bruno Satin également avec nous. Voilà, vous avez eu l'explication en grande partie du fonctionnement du centre de formation du PSG. Je disais fonctionnement baroque, enfin dysfonctionnement en fait, hein, pour être clair. Mais il y a un truc moi qui me... Ton micro, Daniel.
Vraie affaire grave, celle des deux gamins qui ont quand même été entendus par...
Mais il y a un truc quand même qui est terrible, c'est que tu as l'impression que des profs aux entraîneurs, à l'entourage, à tout le monde. En fait, c'est comme si tout le monde voulait croquer, en quelque sorte. Et Bruno, toi qui connais bien les centres de formation...
Les profs, en l'occurrence, excuse-moi Bruno, mais les profs, en l'occurrence, là, ceux que moi
presque
j'ai eu,
l'inverse.
Ont tous témoigné pour dire ces gamins demandent à travailler, demandent justement à ce que ça fonctionne comme il faut, et ne veulent pas avoir autour d'eux un type comme celui que j'ai commencé de parler, qui tiens, si j'étais ton conseiller, si j'étais ceci cela, j'ai un prof ne peut pas faire ça, le gars.
Surtout d'ailleurs, si lui-même était un agent qui, ça serait une sorte de poisson, si j'ai bien compris Daniel, on essaie d'expliquer un peu ce que, enfin, moi tel que je le perçois, c'est que ce serait une sorte de poisson pilote pour un agent,
un rabatteur.
Il y aurait quelque part l'ouverture sur ce genre de formation.
Alors du PSG. Moi, tous les profs m'ont dit, ces gamins, évidemment, dans ces cas-là, on parle toujours des plus connus, mais il y a tous les autres pas connus. Ethan, Warren, Mayulu, pardon. Je n'ai eu que des échos positifs sur. Ah si, petite anecdote que je n'ai pas racontée, drôle, et ce qui montre que la famille Mbappé n'a plus de poids dans le club, c'est que quand la prof et les profs qui s'occupaient des gamins ont été virés, évidemment, ça n'a pas fait plaisir à la mère Mbappé parce que Ethan adorait la prof en question. Et preuve qu'elle a plus de poids, c'est qu'elle a dit mais pourquoi vous la virez, elle est super, machin, les enfants l'adorent, tout ça.
Il n'y a pas eu de réaction.
Je pense qu'il y a deux ans, il y aurait eu une réaction.
Non, puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur des parents qui essayent de pas faire de vagues.
Eh oui.
C'est vrai que il y a eu un sérieux coup de vis, mais sérieux au niveau de l'obtention des contrats pro, des contrats stagiaires, des contrats aspirants. Il y a eu un revirement total sur l'approche du PSG là. Et avant, on donnait des contrats pro à tire-larigot, et aujourd'hui, ça s'est terminé. Donc, ça explique peut-être la retenue dans laquelle certains parents peuvent se trouver pour pas porter préjudice à leur gamin.
Eh oui. La problématique, c'est que Mais les parents aussi sont souvent intéressés. Enfin voilà, on va pas se mentir.
Ils sont très intéressés, je te confirme.
Ouais, voilà. Avoir voilà, si ton fils peut devenir une star du foot, évidemment que c'est quelque chose de très important.
Même ceux qui, ces jeunes qui intègrent le centre de formation du PSG, rien ne leur est garanti. Il y en aura forcément 2, 3, 4
sur 10.
Sur 10 qui vont être des pros. Et puis il y en a d'autres qui vont finir à Alençon. Hein. Moi, je connais plein d'anciens gamins du centre de formation du PSG.
Tant que l'espoir joue à Alençon, est là, voilà. On est dans un monde. C'est pour ça que je disais, on est dans un monde fait d'espoir et de fantasmes. Ouais. Tu sais, au début de la saison, quand même, rappelons que l'histoire autour de l'OM et de la première crise qu'il y a eu entre Pablo Longoria
et
les supporters, elle est née de là, de problèmes au centre de formation où les parents étaient là à se demander comment mon fils a été traité, comment ma fille a été traitée, qu'est-ce qui s'est passé. Et on a bien compris que derrière, à un moment, il y a des gens qui disaient « Ouais, pourquoi tu nous as viré tous ces mômes-là » Parce qu'on avait voulu resserrer le nombre de gamins dans le centre et que ça avait déplu forcément à des gens qui espéraient non seulement que les gamins soient dans le centre, mais qu'éventuellement ils signent un contrat d'aspirant ou mieux dans quelques années parce qu'il y avait des intérêts à se partager derrière. C'est quelque chose, évidemment, c'est toujours quand c'est l'OM et le PSG qu'on en parle le plus.
Bien sûr.
Forcément, c'est toujours, on le sait que c'est comme ça. Mais néanmoins, c'est des problèmes qui existent, en fait.
Ce qui est presque rassurant dans ce que tu nous racontes sur le PSG, c'est qu'il y a une préoccupation scolaire.
Absolument.
Ce qui est quand même.
Absolument.
Ce qui est quand même.
Et les
ateliers. Ils ont obligation.
Je pense que pour les. Comme ça, un peu lointain de tout ça, je me dis, les parents. Ils pensent surtout aux chèques qu'ils vont encaisser à la fin du mois.
Non. Il y a une vraie préoccupation dans tous les clubs de faire attention à ça parce que, je te le répète, moi j'en avais parlé dans mon dernier bouquin, mais quand ils ont envoyé les questionnaires, la LFP remplie par tous les gamins des centres de formation, qu'ils ont vu les réponses à certaines questions sur les rapports hommes-femmes, sur l'homophobie, ce genre de choses, ils ont tellement pris panique que beaucoup de gens dans les centres de formation se sont dit « Oula, on va faire attention au côté scolaire, on va organiser des ateliers, il faut parler aux gens, il faut les éveiller, il faut être bien avec les gamins. » Et moi, je trouve que c'est très important. D'ailleurs, mine de rien, il y a quand même une progression parce que vous noterez qu'il y a beaucoup de jeunes, quand on les entend parler, même quand ils ont 20 ans après leur première, je trouve qu'ils s'expriment de mieux en mieux. Ils parlent plutôt bien. Il y a quelques années,
il y a du media training quand même.
Ouais, voilà.
Beaucoup de choses.
Donc moi, je trouve que c'est bien qu'on fasse attention à ça. Maintenant, il faut faire attention à qui on nomme à la tête de ces structures-là et à ces dysfonctionnements dont j'ai parlé, avec notamment cette affaire là concernant le gars qui sur qui pèse cette enquête et les deux petits gamins qui malheureusement ont terminé chez le psy.
On reçoit toujours des messages quand on fait ce genre de révélation en direct. Là, j'ai un proche d'un très proche du PSG qui me dit a bel et bien le diplôme. C'est un diplôme pour être chef d'établissement, en fait. Oui. C'est pas une école qu'on fait. Hein. On passe un diplôme. C'est un concours interne à l'éducation nationale. Et il nous confirme que Mehdi Rahoui a bien le diplôme pour être chef d'établissement. Bon, ce qui n'enlève pas forcément les dysfonctionnements en question qu'on décrivait. Il y a aussi les centres de formation qui font des gros efforts. Il y a une dizaine d'années, on l'avait raconté dans l'after, à l'OM, il y avait toute une génération de joueurs une année. Il n'y en a pas un seul qui avait eu le bac. Et à l'époque, la direction de l'OM avait quand même pris les choses en main. Et les choses avaient ensuite radicalement changé. Et dans les années qui ont suivi, ils étaient à 100% de réussite au bac. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des clubs qui prennent les choses en main. Et
il y a beaucoup de clubs où ils ont 100%. Bon, après, je veux dire, le niveau du bac, ce n'est pas non plus...
Non, mais bon, tu te retrouves quand même avec une population de gamins, on va pas se mentir, qui pensent plus au foot qu'au devoir. Voilà, c'est avec la pression d'avoir le contrat alors que t'es encore mineur, etc. Souvent des gamins qui sont pas toujours d'une maturité extraordinaire, c'est normal à cet âge-là. Je veux dire, c'est souvent des pré-ados ou des jeunes ados. Donc, bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de cette histoire, messieurs. Rien à rajouter, Daniel, t'as tout dit?
Daniel, sinon, oui.
Pardon?
Le bac, tu l'as eu, oui.
oui, non, mais bien sûr que cette affaire sera à suivre parce que, je t'ai dit, il y a les dossiers de harcèlement qui sont en cours et pas mal de choses à résoudre. Et puis, je pense que je vais recevoir pas mal de coups de fil dans les jours qui viennent.
Oui, ça, c'est fort possible.
Bon, à suivre. Et puis, ceux qui nous disent, ouais, pourquoi vous sortez ça à quelques jours à la demi-finale? Parce qu'il y a des messages sur le chat YouTube. Non, on n'est pas là pour déstabiliser qui que ce soit, le club ou quoi que ce soit. Bon, il se trouve que cette enquête est faite là parce que les révélations arrivent à ce moment-là. Ce serait entre deux défaites, ce serait la même chose. Voilà pour cette affaire que vous retrouvez sur rmcsport.fr. J'aimerais, Daniel, qu'on accueille parmi nous une personne importante depuis quelque temps dans l'univers de l'after. Il s'appelle Bam Bam. Alors comme ça, son prénom Bam, non Bam. Salut Bam.
Bonsoir.
Bam Bam est un de nos modérateurs, est un de nos modérateurs du chat YouTube de l'After.
De l'After, c'est ça, et de Twitch également. Bon. Et de mon vrai prénom, je m'appelle Aurélien. Enchanté.
Aurélien, magnifique. Quel livre.
Pourquoi Bam Bam?
Ça vient de Bam Bam Bigelow, c'est mon surnom sur Twitch. Et en gros, fallait faire simple et on a créé j'ai créé mon pseudo de modérateur assez vite pour Twitch, enfin pour YouTube. Et donc voilà, j'ai fait simple, j'ai fait bam bam.
Alors en fait, on est ravis de t'avoir parce qu'on voulait déjà te remercier. Merci. Remercier tous tes collègues modérateurs qui permettent que ce chat YouTube existe. L'After est sur YouTube depuis quelques semaines maintenant, quelques mois même.
Depuis la Coupe du Monde.
Ouais. Depuis la Coupe du Monde. Et on est ravis parce qu'évidemment, c'est un nouveau terrain d'expression pour tous les auditeurs qui nous suivent. Les Afteriens, ils sont là. Tiens, y en a qui te découvrent. Hein. Je vois les messages, je me dis, ah, il est là, bam bam, on le voit en vrai et tout. Donc,
c'est enchanté.
Exactement.
Bah, si je peux me permettre de placer un mot,
bam bam.
J'espère.
Jamais la même.
Mes enfants m'ont demandé si je pouvais devenir une star et je leur ai dit bon allez d'accord pourquoi pas quoi, ça me tente très bien quoi. Mais moi personnellement je voudrais vous adresser un mot de remerciement déjà pour les invitations pour toute la team de Modo et également pour ce que vous faites en fait dans le Twitch game et puis sur YouTube également. Mais je voudrais revenir sur Twitch parce que vous avez une chaîne qui est gérée donc par 3 streamers qui passent comme le nom de la chaîne l'indique, 7 jours sur 7 sur Twitch. Et en gros, vous avez Lemuel, Flo de Janusport et Sacha. En gros, qui sont 3 streamers vraiment avenants, compétents et qui gèrent un temps d'antenne assez dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette chaîne, en gros, si vous êtes geek et que vous aimez donc regarder du MMA ou du foot gratuitement, vous gagnez également des points de chaîne, ça s'appelle. Et c'est en fonction de votre temps de visionnage, plus vous avez de temps de visionnage, plus vous gagnez de points de chaîne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 25 000 points de chaîne, donc environ, on a calculé 2 semaines intensives de visionnage, vous partez au stade à 2 en geekant. Donc ça, c'est un truc moi qui m'a toujours éclaté. Et en gros, vous avez deux places pour du top 14, de la Ligue 1,
juste en regardant la télé. Mais toi, t'as quel âge pour être modérateur, là ?
44 ans. Et
bam bam, oui.
Ouais, j'étais geek, mais j'ai 3 enfants que je salue et que j'aime profondément. Du coup, le geekage, c'est fini. Les parents vous le diront. Non, il n'y a plus le temps, puis il n'y a même plus l'envie, quoi.
Sur le chat YouTube de l'After, quelles sont les personnalités qui provoquent le plus de réactions et les modérations on va dire les plus fréquentes qu'il faut que tu fasses.
Alors déjà sur le chat de l'After, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entre 500 et 700, et quand l'After commence, on passe parfois à plus de un soir de match de PSG, on passe à 5000. Des matchs où on est passé à 12000, je crois, avec PSG. Je demande la confirmation à mon cher Grover qui est en arrière-boutique. Et par contre, des fois, on éclate le score. On est à 60 000 pour du ping-pong. On ne comprend même pas. Donc voilà, c'est des scores.
Les frères Lebrun.
Voilà, je ne sais plus quelle était la question, mais ce sera ma réponse.
Je disais, quelles sont les personnalités de l'After qui suscitent le plus de besoin de modération?
Stéphane Guy, pour ses positions sur le Qatar. Il faut défendre ses positions, ses convictions, et faut pas avoir peur. Donc là-dessus, visiblement, il y en a qui essayent de t'effrayer. Nous, on les fait sauter tout simplement.
Alors, faut dire qu'on, quand on modère, on enlève évidemment les insultes.
Faut être rapide ou pas.
Oui, attentif, on est comme ça, on regarde. Oh putain, la merde, il y a une insulte. Hop là,
voilà. Ouais, il a craqué.
Non, c'est parce que je décrivais une situation.
Mais non, je l'ai pas dit.
Je décrivais une situation.
Hier, tu nous as dit que t'allais te dire.
Non,
un
je
mois.
Me mettais à sa place et à sa place, je m'as. Non. Ça n'est pas juste.
Je suis confus de tout ça.
Je décrivais une situation. Je décrivais une situation où j'imagine que quand il voit une insulte, il doit se dire oh putain merde, il faut l'enlever.
Ouais,
voilà, c'est pas la même chose. Mais non, parce qu'il doit pas dire ça. Il doit pas dire punaise. Tu emploies jamais le mot punaise.
Avec mes enfants.
Ouais, voilà.
Bon, c'est bon.
Et à l'entraîne donc.
Ouais, et quand je suis en voiture aussi, je dis punaise.
Ah bon,
tu vas couper la route.
Stéphane, il y a un souci de modération avec Stéphane. Stéphane suscite des réactions.
Ne pas trop avec moi, parce que de toute façon, je ne suis pas sur tout ça, donc je ne suis pas impacté directement par tous ces, ces insultes ou ça ne m'atteint pas.
C'est ce que m'a dit également Simon Dutin. Un lendemain d'After où c'était un peu musclé pour lui, je l'avais contacté sur WhatsApp. Je lui avais dit bon Simon, je suis désolé, les messages, on a eu du mal à les effacer. Il m'a dit c'est pas grave, vous êtes des personnalités publiques.
C'est le jour où il a dit Del Castillo et sa place dans n'importe quel club d'Europe?
Je sais pas. Ça, je j'ai plus en tête, mais clairement.
Oui, il a dit, mais il fait quand même une belle saison. Hein.
C'est cela vrai. Dit. Johan Crochet s'est fait des amis.
Bruno, donc.
Johan Crochet s'est fait des amis en parlant de Zidane.
Mais bon,
c'est pas le pire.
Mais personne a autant d'amis que moi, quand même.
Non, mais en fait, là, on parle de quelque chose de différent. C'est-à-dire que les divinités ne peuvent pas avoir d'amis, en gros, ou alors les gens qui se font conspuer et qui n'ont pas d'amis non plus.
On déteste
Daniel Riolo. Il n'y a pas de juste milieu, quoi.
Bon, bam, merci d'être passé.
Bah, avec grand plaisir.
Et du coup, encore merci à tous les modérateurs.
Et on revient quand on veut, surtout, voilà. C'est super important.
Surtout dans ces périodes un peu troubles où les réseaux sociaux s'est mis en avant sur le fait qu'il y a des pressions ou ou autre chose négative. Et on est quasiment, un des seuls remparts avec les modérateurs, donc des chaînes directement. Mais vous, ce qu'il faut savoir, c'est que RMC propose un espace, donc, safe. Quand vous venez le soir, venez vous connecter pour regarder, discuter ou voir du sport, tout simplement. Et c'est rare, en fait, sur le web, des zones où vraiment vous pouvez venir et discuter de tout ce que vous avez envie sans avoir peur de vous faire bâcher.
J'insiste toujours pour dire que l'After est un espace de liberté d'expression totale pour parler foot, bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus.
Merci pour
l'invitation. Merci, modérateur. Dans un instant, Willy Sagnol avec nous pour parler de son aventure avec la Géorgie. Il y aura ensuite Brest au programme, l'Italie et l'Espagne.